RMC.
C'est un sport, à mon avis, qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'habileté, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact, le football.
Le Super Football Show.
Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football.
C'est 11 mecs contre 11 mecs, et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois.
C'est la beauté de ce sport, du football en particulier.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot, Nicolas Villas.
Ali Benarbia et toi Philou Maoulida avec vous également sur le hashtag RMC Live et au 32-16. Tiens, avant même de vous redonner les résultats de ce soir de la 34e journée de Ligue 1, on va retrouver Lucas Vinois à Madrid. Se joue la finale de la Coupe du Roi. On s'était quitté, Lucas, il y avait 4-0 pour le Barça face à Séville.
75 minutes de jeu, il y a un but de plus pour les Barcelonais. Ça tourne plus qu'à la Ali correction. C'est la Manita pour l'instant. 5-0 en faveur du FC Barcelone face à Séville. C'est Coutinho sur penalty qui a corsé l'addition. C'est très très compliqué pour les Sévillans. Il y a quelques petites bagarres, quelques petites échauffourées là tout à l'heure avec Sergio Busquets notamment. Les Sévillans sont très remontés, très énervés de leur prestation, alors qu'à l'instant là, une des rares frappes cadrées arrive dans les gants de Jasper Cillessen. 76 minutes, 5-0 pour Barcelone qui se dirige vers le titre.
Merci beaucoup Lucas, on sera avec Fred Hermel tout à l'heure. On reviendra bien sûr plus en détail dans cette finale de Coupe du Roi. 34e journée de Ligue 1. Marseille s'est imposé 5-1 face à Lille cet après-midi. On vous attend dans quelques instants, supporters de l'OM et du LOSC, sur cette affiche un partout entre Metz et Caen. Victoire 3-1 de Amiens face à Strasbourg. Toulouse s'est imposé 2-0 face à Angers. Et Guingamp a battu Monaco 3-1. Tiens, on va conclure sur ce match-là entre Amiens et Strasbourg avec Sylvain, supporter d'Amiens, qui nous a appelé au 32-16. Salut Sylvain. Picard.
Ouais, salut les gars, ça va?
Salut, toi, ça va, par contre.
Salut Picard,
toi, ça va bien.
Écoute,
ça s'entend.
Bah écoute, ça... ouais, franchement, ça va bien parce que quand en début de saison, on perd les trois premiers matchs, on a moins 7 au goal average, on fait une belle série. En janvier, ça va moins bien, on commence à dire que dans le vestiaire, il n'y a pas d'ambiance. Et là, quand même, on a fait un money time qui déchire.
très bien.
Bravo.
Dû à quoi, d'après toi?
Je pense que les gars, ils ont quand même vraiment envie de se maintenir. On les a quand même traités de smicards, de chômeurs, de joueurs de national. Et là, franchement, ils avaient envie de montrer. T'as Kakuta qui avait plus la confiance, là, qui claque un super troisième but. Franchement, et quelque chose que je tiens à dire, c'est que Quentin Cornet, il nous manquait énormément. Il a fait une super entrée. Franchement, c'est une belle équipe. On sent qu'ils ont envie de jouer ensemble l'un pour l'autre. Non, c'est... Et là, je pense que le maintien, il est acquis, là. Franchement, on est à l'abri.
Ah ben ça va, alors. On va dire à Pélissier, coach Pélissier, bien sûr. Pour les remonter, on sait qu'est-ce qu'on doit leur dire aux joueurs Picard.
On leur dit quoi?
Ben, c'est ce qu'il vient de dire, là, le supporter.
Ouais, mais peut-être que ça joue, ça aussi, non?
Ah ben voilà.
Ah oui. C'est vrai que c'était le plus petit budget, c'est vrai, de Ligue 1, etc.
Et ouais, peut-être ça joue. Peut-être c'est besoin de se faire piquer, tout simplement. Et ça les a piqués, ça les a touchés dans leur orgueil. Et on a vu un nouveau visage, l'état d'esprit a changé. Et Amiens, voilà, les matchs. Amiens, c'est un plaisir de les voir jouer en ce moment. Ça joue bien au ballon, ça marque des buts. Un joueur comme Kakuta, c'est pour ça, aux supporters amiens, profitez-en, parce que je pense pas qu'il va rester à Amiens l'année prochaine.
Contre,
donc, profitez de son talent pour les derniers matchs, parce qu'après, malheureusement, Amiens, Kakuta, je ne vois pas rester.
Ça les a piqués, mais j'ai peur qu'on nous les pique,
moi, voir. Ah, mais c'est le jeu, Sylvain.
Mais par contre, ça se mérite de jouer en Ligue 1. Hein, donc, il faut souffrir. Il faut que cette équipe, c'est des équipes.
Ah, c'est
qui
beau,
veulent, ça. Oui, parce que les équipes qui veulent se maintenir et prendre plaisir à jouer en Ligue 1, il faut souffrir et très longuement dans un championnat.
Regardez Dijon, hein. C'est un peu le même cas. Dijon, ça joue pas mal aussi. Hein.
Ça joue très bien. Amiens, Lyon et Dijon jouent très bien.
Des vrais bons coachs. Alors, c'est vrai qu'ils sont arrivés au premier plan en faisant monter leurs équipes, que ce soit Dalloglio d'ailleurs et Christophe Gourvenec.
Gourvenec a fait la même chose.
Oh, mais Gourvenec a été joueur pro, il a joué à un certain niveau. Ça, c'est des mecs dont on. Surtout Pélissier d'ailleurs, qui a pas eu une très grosse carrière.
Voilà, mais Dalloglio, il était au bon niveau.
C'est vrai, c'est vrai.
Il a joué à Strasbourg.
Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Mais il faut que Christophe y reste l'an prochain.
Ah ouais, il va être, je pense qu'il va être courtisé aussi.
Tu sais, il y a le PSG qui cherche un coach aussi.
N'importe quoi. T'as sûr. Ouais, c'est pas vrai avec.
Ouais, mais non, on peut prendre Wenger au cas où.
Prenez qui, Emery?
On peut prendre Wenger.
Ah, laisse tomber. Je vais taper Strasbourg, il est alsacien, tu crois qu'il va venir?
Ah ouais, c'est vrai.
Ouais,
c'est
bien vu. Pensez à ça, Sylvain, la géopolitique du football, mon gars.
Eh oui.
Bon, merci en tout cas, Sylvain.
Merci beaucoup les gars de m'avoir pris. À très bientôt.
À très bientôt.
Merci, bonne soirée Sylvain. À très vite. Ah ouais. Salut Sylvain. Je t'ai coupé la chic Sylvain. Marseille s'est imposé 5-1 face au LOSC ce soir. Doublé de Thauvin, doublé de Costa Smith-Rogloin, un but de Campos. Benzia a marqué le but du LOSC. Alors pour Lille, 11e match en victoire pour le LOSC. La dernière victoire c'était le 28 janvier dernier face à Strasbourg. Tiens justement, dis donc. Pour Marseille en revanche, ils enchaînent, ce qui est plutôt pas mal, notamment avant le match de Ligue Europa face au RB Salzbourg. Marseille qui est à un point donc de l'AS Monaco, qui a perdu, on le rappelle, 3-1 ce soir à Guingamp.
Alors ce qui est bien, c'est qu'ils sont dans la course mathématiquement au niveau des points pour la deuxième place et troisième place, bien sûr. Et ce qui est bien, c'est qu'ils ont rajouté un plus 4 pour le goal average, qui va être sûrement aussi important. Il faut qu'ils rattrapent à la fois les Lyonnais et les
Monégasques. Même si à la différence de but, ils sont derrière les deux autres. Hein,
oui, ouais. Mais ils se rapprochent. Parce qu'un plus 4, ça fait du bien, hein, sachant que nos amis Lyonnais ont rajouté le but. Et par contre, à l'opposition, c'est que avec ce 7-1 plus ce 3-1, automatiquement, ça fait pratiquement 8, moins 8 pour les Monégasques. Donc, ça équilibre pratiquement ces équipes au niveau de l'avérage. Mais Marseille peut encore revenir. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils développent un beau jeu. Ils se créent des occasions. Tu sens une fluidité offensive. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont pas spécialement marquer en contre. Donc, ça fait du bien aussi à cette équipe de Marseille pour la fin de saison et aussi pour les demi-finales. Parce que, attention, Salzbourg, c'est aussi une grosse équipe. C'est un gros morceau. Faut pas s'attendre que l'Atlético Madrid ou l'Arsenal. Là aussi, t'as un petit peu dans le style de Leipzig, une très très bonne équipe.
Toi, Philo.
Après, je pense aussi qu'il ne faut pas s'enflammer aussi, parce que vu le niveau de Lille cet après-midi, je souffre pour Lille et pour les supporters lillois.
Et pour Christophe Galtier aussi. Oui,
exactement. Après, il ne faut pas enlever aussi la belle victoire de Marseille, parce que ces matchs-là sont les plus difficiles. Quand tu joues contre une équipe qui joue le maintien, normalement qui joue leur survie, il y a un autre visage en face. Mais voilà, je pense que, et surtout aussi, avec, en sachant le résultat la veille de l'Olympique Lyonnais, tu joues un match le lendemain avec de la pression, du résultat, ils ont répondu présent avec la manière, avec des buts, et je suis content personnellement pour Mitroglou. Pour Mitroglou, je suis content, parce qu'on l'a critiqué, on l'a descendu, et répond de la meilleure des façons. Et c'est marqué des buts. Et moi, je l'ai toujours défendu, et on m'a dit, je leur ai dit, Mitroglou, c'est un buteur, ça restera un buteur.
C'est un genre
et
de surface. Hein.
Exactement, c'est son domaine, la surface. Et je suis content pour lui. Félicitations.
Mais par contre, c'était compréhensible qu'on le critique, parce que il marchait sur le terrain, il était complètement perdu. S'il a eu des blessures.
Attention. Exactement. En fait,
ce qui a porté préjudice à
Mitroglou, c'est le prix. Déjà, tu payes 15 millions pour la moitié des droits, dont beaucoup s'attendaient. Et surtout, il est arrivé, il n'était pas du tout prêt. Il était blessé déjà.
Mais c'est ce que j'avais dit, Nico. J'ai dit, il n'est pas prêt déjà physiquement. Il y a le prix, tout ça. Laissez-le.
Il a besoin d'un attaquant qui marque de suite.
Mais Mitroglou l'a toujours marqué dès que le boulet passé. Alors, il a marqué à Benfica, il marquait but sur but. Ouais.
Et
un buteur reste un buteur.
Ils en voulaient plus, Benfica.
Non, c'est pas qu'ils en voulaient plus. Ils avaient recruté d'autres attaquants. Il y avait, c'était Boucher à son poste. Ils avaient claqué 20 millions d'euros sur Raúl Jiménez, d'ailleurs, qui est pas titulaire au Benfica non plus. Et il fallait.
Et peut-être un autre style aussi, parce que Mitroglou, c'est le genre de surface.
Non, peut-être qu'il voulait bouger aussi, hein. Marseille, c'était une belle proposition. Ça a été bien pour le club, pour le joueur, très certainement.
C'est dans ce style-là où on dirait qu'il a l'air complètement ailleurs, qu'il s'en fout complètement. Le style, on n'est pas dans sa tête, qui faisait que, en plus d'être blessé, de pas revenir dans le rythme physiquement, que Marseille cherchait encore un attaquant pour marquer des buts, et que lui, on avait cette impression que ça aille ou ça aille pas, je suis là et j'attendrai. C'est ça qui est un petit peu qui choquait, arrivé un certain temps. Voilà, c'est bien. Là, c'est bien, il marque, mais il marque au moment où Marseille se développe un très beau football offensif.
Et après, il faut savoir aussi que voilà, Mitroglou, c'est pas le joueur le plus élégant de Ligue 1. C'est un joueur, on le dit, c'est marqué des buts. C'est un joueur un buteur.
Donc c'est pour ça que
Mitroglou, c'est pas le joueur qui va tribler trois joueurs et marquer. C'est, il faut qu'il y ait des idées, des bons centres. Il la mettra toujours
au fond. D'ailleurs, au Benfica, elle était très bon parce que, et ça, on l'a souvent dit d'ailleurs, que ce soit pendant les matchs ou à l'after. Non, non, c'est qu'il aimait bien jouer à deux attaquants et jouer avec Jonas devant. Ah, voilà. Et on était nombreux. Alors, avec Lionel Charbonnier, on le disait souvent, avec Pierre Ducrot aussi. Pourquoi Garcia n'associait pas Germain avec Kostas Mitroglou? C'était souvent soit l'un, soit l'autre.
Très bien.
Et c'est le cas maintenant.
Parce qu'il veut toujours ses trois offensivement. Et il veut pas deux et deux.
Tiens, petit sondage préparé par Laurent Fala. Vous savez, notre community manager, qui est l'une des stars de l'after, voire même de cette boîte, vous le savez bien entendu. Il sera avec nous d'ailleurs, très bientôt, physiquement en plateau. Il en a fait la promesse tout à l'heure. Fortement décrié depuis son arrivée, mais buteur providentiel à certains moments. Comment jugez-vous Kostas Mitroglou aujourd'hui? Alors là, c'est hyper serré. Vous êtes 45% à répondre, il bonifie l'OM. 45% à répondre, là ou pas là, c'est pareil. Et 10% à répondre, il handicap l'OM.
Ah ben déjà, il est remonté. Parce qu'avant, on disait, il handicap l'OM non,
à 46%. Encore, Mitroglou, il n'a pas encore totalement convaincu.
Avant, c'était 46%, il handicap l'OM.
Ouais.
Maintenant, regarde, c'est que 10%.
Ça progresse.
Et ça progresse. S'il continue à marquer, et sûrement, là, on l'attend pour qu'il marque des buts importants, comme il avait marqué ce fameux but, là, ça peut lui permettre, en Coupe d'Europe et dans les matchs importants, de remonter un petit peu sa cote.
Voyons ce qu'en pense Johan, qui est supporter de l'OM et qui nous a appelé au 32-16. Salut Johan.
Salut l'équipe.
Salut Johan. Salut, Johan.
Ah, moi, là, je suis en forme comme jamais. Hein.
Comme Kostas, comme Kostas Mitroglou. Oh.
Ah, mais Mitroglou, je vais me mettre à parler le grec, si ça continue.
T'as qu'à aller manger
Il est incroyable, il m'a mis un coup de tête encore. Oh, il est phénoménal en ce moment.
Est-ce que tu faisais partie des Mitroglou sceptiques, là, d'il y a quelques temps encore?
Ah, je le suis toujours, je te mens pas, pour moi, il met pas un pied devant l'autre.
Je suis d'accord avec toi, c'est vrai, Johan, je suis d'accord avec toi.
Quoi, qu'il met pas un pied devant l'autre?
Non, moi, je suis d'accord avec lui. Je suis encore sceptique avec Mitroglou.
Quelque chose, toi, Flao.
Ah, non, oui. Non, après.
Non, mais qui marque des buts, c'est son métier, c'est son rôle. Ah, voilà. Donc, s'il nous met 5 buts dans la saison, on va pas non plus lui offrir une médaille.
Non, mais après, sur Mitroglou, on va pas s'attendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à qu'il fasse le jeu, c'est un autre style de jeu.
Il va pas dribbler.
Mitroglou, il a besoin des bons centres, et il va la mettre au fond, et c'est ce qu'on demande un attaquant. Si Mitroglou, il joue le rôle de, on va dire, numéro 10, à faire des passes, tout ça, qui marque pas, on va tous le tailler. Déjà qu'on le taille déjà. Alors, si maintenant, il marque, mais tant mieux pour l'OM, mais pour nous! Tant mieux!
Bien sûr, tant mieux, c'est normal. Mais ce que je veux te dire, c'est que, le prix nous a aussi fait le critiquer. Je suis d'accord, je vous ai entendu là pendant 2 minutes. C'est vrai qu'il arrive, nous on s'attend à quelque chose d'extraordinaire. Au final, à la mi-saison, on se dit, putain, on aurait mieux... Enfin, sans dénigrer Nolan Roux. Mais je me dis, Nolan Roux, il aurait fait le même boulot.
Moi, je croyais que vous avez fait signer un grec d'Andoum, en fait, au début. Non, c'était pas Mitroglou.
Après, il y a beaucoup le nom de Gomis qui est revenu, parce que l'année dernière, Gomis a mis beaucoup de buts. Et on a dit, voilà, pourquoi on n'a pas gardé Gomis, pourquoi on a fait partie Gomis pour prendre Mitroglou. Mais après, voilà, il y a peut-être peu de supporters marseillais qui connaissaient Mitroglou. C'est peut-être ça aussi.
Ah non, mais ça, c'est sûr qu'on est peu, mais c'est surtout pourquoi on achète Germain, qui doit jouer en 4-4-2, qu'on achète Mitroglou, qui doit jouer en 4-4-2, pour qu'au final, on ait un système où on joue en 4-2-3-1.
Ouais, exactement.
Ah ben, tu sais, au départ, les systèmes, il y a des systèmes, et ça change, et c'est comme ça, le football.
Après, il y a un truc aussi. Moi, j'ai l'impression que Mitroglou, et d'ailleurs, c'est pas une impression, ça s'est vérifié, ça s'est fait très tard quand même. Marseille avait besoin d'un attaquant supplémentaire, et ils l'ont fait sur le tard. D'ailleurs, voilà.
Je suis pas sûr que lui, il avait beaucoup de solutions.
Voilà.
Je sais même pas si lui, il avait aussi, Mitroglou, beaucoup de solutions, et il est allé à Marseille, et que Marseille, la même chose.
Il avait refusé la Chine.
Par contre, ce que j'avais toujours pas compris, au moment où Macourt récupère ce club et qu'il va en faire un bon, tu prends toujours la colonne vertébrale. Qu'ils mettent l'argent ailleurs, alors au lieu de le mettre sur la Sanadiara au moment, c'était important, et sur Gomis, et là tu l'avais ta colonne vertébrale. Et je pense que t'aurais pu encore être plus costaud avec à la fois Diarra et à la fois Gomis qui demandait quoi en fait? De jouer pour Marseille, c'est trop bon Marseille, on demandait juste quelque chose financièrement que peut-être ils sont allés chercher ailleurs avec des joueurs qu'il faut un certain temps. Et c'est un petit peu dommage, c'est ce que je n'ai pas compris.
Et pour revenir sur le système, comme tu disais, tu regardes en début de saison, Garcia, son système c'était un 4-3-3. Et à un moment donné, il a vu que le système ne marchait peut-être pas ou était moins performant. Il est passé à 4-2-3-1 et on voit les résultats de Marseille aujourd'hui.
Ça va mieux.
Tiens, Johan, je te propose d'écouter Rudy Garcia à l'issue de la rencontre qui a mis en avant, lui, le collectif. Et j'aimerais avoir ta réaction juste derrière, Johan.
Il reste 4 matchs de championnat et j'espère 3 matchs de Coupe d'Europe. Donc voilà, on veut mettre ce qu'on met sur le terrain en ce moment. Voilà, beaucoup d'enthousiasme et puis du talent aussi, de l'esprit d'équipe. On l'a encore vu ce soir à l'image d'un Dimitri Payet qui qui laisse sa place de tireur de pénalty à Flo Thauvin. Ce sont des signes vraiment importants dans une équipe qui a envie de gagner ensemble et des top joueurs qui savent que on n'est jamais plus fort que quand on joue les uns avec les autres. Donc c'est la force de l'Olympique de Marseille cette saison, pas que en cette fin de saison.
Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on était avec un supporter de Monaco et même un Lyonnais qui nous disait, moi, ce que j'aime à Marseille, c'est l'état d'esprit. Tu parlais de Grinta tout à l'heure. Toi, Philou. Et c'est vrai qu'on a l'impression, Rudy Garcia joue beaucoup là-dessus. Depuis qu'il est arrivé à l'OM, hein, il y a beaucoup d'éléments de langage qui sont basés là-dessus. Johan, ça te séduit, ça aussi, ou pas?
Ouais, moi, ça me séduit. En plus, habituellement, je suis au Fanatics. Bon, là, on était suspendu. Du coup, je me suis tapé le match au bar avec les collègues.
Et
j'ai
c'est encore mieux.
J'ai pu voir cette vision d'ensemble que j'ai pas forcément au stade, parce que c'est vrai que je suis pas constamment en plein devant le match, et là j'y étais. Par contre, moi je suis pas tellement d'accord sur ce match. Je trouve que franchement on a joué à 40%.
Lille s'est fait. En face, ça avait personne.
Lille s'est fait.
Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que comme je discutais avec le standardiste, c'est vrai que pour moi c'est là quand même une bonne manière de préparer le match de coupe qui est jeudi. On a quand même mis 5 buts. Faut pas oublier que non plus, malgré qu'on ait pris 2 buts à 3, qu'on en ait pris 2 contre Leipzig, on en a quand même mis 5 à Leipzig, 3 à 3, et là on en reclaque 5, ça nous fait 13 buts en 3 matchs. Mm-hmm. Ça veut dire que nos attaquants, ils sont concernés. Ils sont vraiment dans ce money time, dans cette fin de championnat, ils ont envie de tout réussir, de tout gagner. Et pour moi, on va faire une fin de saison parfaite. Et quand je vois le résultat de Monaco, que j'écoutais votre auditeur aussi, etc., qui disait qu'il n'était pas trop serein, moi, personnellement, en tant que Marseillais, on espérait un faux pas de Lyon. Maintenant, on peut espérer un faux pas de Lyon et de Monaco. Mmh. Et là, je commence vraiment à y croire, parce que dans la peau du chasseur, on est très très bien en ce moment. C'est pas pour dénigrer non plus cette équipe de Salzbourg. On va devoir vraiment préparer le match.
Ah oui, et l'attaquer, c'est une bonne équipe, comme des hommes.
On va l'attaquer comme des hommes, mais si on réussit en plus à faire un bon match contre Salzbourg, la confiance et l'émotion et la testostérone des joueurs, le je sais pas comment.
Et le 12e homme aussi, ça.
Et le 12e homme, on va tous être là, et je pense que très sincèrement, moi je mettrai aujourd'hui peut-être pas ma main à couper, mais je suis prêt à prendre le pari avec vous, l'équipe, que pour moi on va aller jouer la finale d'Europa League et on va finir sur le podium.
J'espère, je l'espère vraiment.
De toute façon, moi je milite de toute façon pour un championnat. Un championnat de Ligue 1 avec une grosse équipe de l'OM. Tu ne peux pas avoir un championnat de Ligue 1 si t'as pas une grosse équipe de l'OM dans le championnat.
Avec des grosses équipes, de toute façon. Tu peux pas avoir un championnat avec un mec tout seul devant.
Non, une grosse équipe, c'est une chose, je veux dire.
Si, t'as l'Allemagne.
Mais la Ligue 1, dès qu'il y a l'Olympique de Marseille avec une grosse équipe, t'as toujours un très beau championnat en général.
Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, la Grinta, Nico, c'est qu'on l'a vu à l'image de son match cet après-midi, et c'est pour moi c'est le joueur qui représente le plus à Grinta à Marseille, c'est Ocampos. C'est Ocampos, c'est énorme.
On l'a toujours dit d'ailleurs cette saison.
Un ballon, il va tacler sur la touche, il va le récupérer.
Il en fait parfois trop d'ailleurs.
Mais c'est vrai qu'il est pas. C'est pas le joueur. Il a pas la technique de Thauvin, il a ni la technique de Payet. Ouais. Mais la Grinta. Mais ce joueur, moi je l'adore.
Mais c'est pas joueur commun. Hein.
Mais c'est ce qu'on aime à Marseille, la Grinta, les joueurs comme ça, qui ont la Grinta, qui lâchent rien, qui mouillent le maillot, c'est ceux qu'ils aiment. Moi, quand j'étais à Marseille, j'étais peut-être pas le meilleur, loin de là, j'étais même très loin derrière les Ribéry, Niang, Nasri, tout ça. Mais je mouillais le maillot, la Grinta, je l'avais, et c'est pour ça qu'on m'appréciait. Mais et Ocampos, il représente vraiment la Grinta à Marseille.
Mais il ne peut pas jouer autrement. Par contre, s'il joue autrement, il est moyen.
On remercie Johan, en tout cas, supporter de l'OM, qui nous a appelé au 32-16. Et tiens, c'est terminé, messieurs, la finale de la Coupe du Roi, Lucas Vinois, entre le Barça et Séville.
Et ça n'a pas évolué en fin de match. Hein. 5 buts à 0, victoire donc de Barcelone. Les buteurs Suarez à la 13e et la 39e, Messi à la 31e, Iniesta à la 51e, Coutinho à la 69e, Iniesta qui est sorti à la 87e minute sous les applaudissements du public sévillan et aussi catalan. 22 ans après être arrivé à la Masia, il ajoute un 34e titre avec le Barça.
Merci beaucoup Lucas, bonne soirée. Lucas. Bonne soirée Lucas.
4e titre d'affilée. Ça s'était pas fait depuis l'Athletic Bilbao.
Ouais, tu te rends compte?
Pour Barcelone.
Ouais, c'est fou. Hein.
Il enchaîne dans les 4e Coupe du Roi.
Coupe du Roi d'affilée.
Respect Iniesta quand même, respect.
On va y revenir dans quelques instants, messieurs, avec Fred Hermel sur cette finale de la Coupe du Roi. On reste sur cette victoire de Marseille 5-1 face à Lille. Il y a Didier, supporter de l'OM, qui est avec nous dans l'after. Salut Didier.
Salut tout le monde.
Salut Didier.
Vous appelez au 32-16, bien entendu. Alors Didier, tiens, il y a pas mal de réactions sur le hashtag RMC Live sur Kostas Mitroglou. Il y a CC qui nous dit, franchement, Mitroglou, il bosse et peut-être ça aide certains milieux offensifs à mieux s'exprimer. Faut soutenir ce gars-là. Il y a Alexandre, fidèle de l'after également, qui nous dit, c'est super de voir Mitro marquer ce soir et en plus un doublé. Lui, il prend de plus en plus confiance et c'est bien. On a besoin de lui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Mitroglou?
Ben, moi, je pense qu'il lui fallait du temps. Déjà, le championnat portugais, c'est pas le même que le championnat français. On sait que le championnat français, c'est un des plus durs. Donc, il fallait lui laisser un peu de temps. Après, on voit quand même qu'il est quand même assez adroit devant le but. Les deux buts qu'il met, c'est pas des buts de raccro, quand même. Mmh. Donc voilà. Mais après, moi, quand je vois ce que fait l'OM, parce qu'une grande partie de la saison, l'OM a joué, qu'on le veuille ou pas, à 10, sans attaquant, puisque Germain n'était pas à son niveau et Mitroglou non plus. Donc, si Mitroglou se met à marquer maintenant, moi, je suis confiant pour les matchs qui restent, quoi.
Mmh. Ah, je suis d'accord avec toi. Hein. Je pense qu'il a dû aller à Métro. Il s'est acheté un nouveau pied, Mitroglou. Oh, et drôle, puis maintenant, ça va mieux.
Oh, c'est marrant, ça.
C'était pas mal.
Métro Glou,
ouais. Ouais,
voilà. C'est pas mal. Ben, c'est pas mal.
Et voilà, et ouais, c'est un nouveau métro.
Quand tu dis que t'es confiant, là, ça veut dire quoi? Que la deuxième place, t'y crois, Didier?
Ah, mais moi, oui, j'y crois, parce que c'est ce que je disais aux standardistes. Je pense que mentalement, des trois équipes, c'est l'OM la plus forte.
Alors, c'est aussi celle qui a le calendrier le plus lourd, forcément, puisqu'il y a la demi-finale de Ligue Europa.
Mais c'est vrai que mentalement, c'est elle, pour quand tu vois ces trois équipes.
On disait ça, on dit que c'est l'OM qui a joué le plus de matchs en Europe, et je vois que même physiquement, ben, je les trouve pas plus fatigués.
Il y a pas mal de blessés quand même, hein, Didier.
Oui, mais ils ont toujours été remplacés. Que ce soit Sakai à gauche, là, c'est Sakai qui se blesse, Bounassar, il est aussi fort, à droite.
Enfin, tu l'as senti défensivement quand ta défense était pas là quand même.
Oui, mais ils ont quand même. C'est passé quand même. Là, ils sont au bout. Il reste 4 matchs. Ils ont fait toute la saison comme ça. Je vois pas pourquoi ils vont lâcher maintenant.
C'est vrai ce que tu dis. Parce que, d'ailleurs, c'est ce que disait Garcia hier en conférence de presse. Il disait, moi, je préfère, vous connaissez ma philosophie, je préfère gagner 3-2, tant que je gagne, plutôt que de gagner des 1-0. Et c'est vrai qu'à chaque fois, ils sont compensés, finalement, les attaquants,
plus, ça te fait toujours plus de bien quand tu gagnes 3-2 que quand tu gagnes 1-0.
Parce que dépend du scénario, non?
Non, c'est pas ça, c'est que les défaites, oui, le scénario, mais c'est
le match contre Metz,
parce que ça te pousse tout le temps à. Tu vois, ce match à 3, pareil, ça te pousse tout le temps. Ah, et quand tu finis avec ce positif et marqué de 3 buts, ça t'amène qu'au prochain match, c'est encore fluidifié offensivement. Et qu'on le veuille ou pas, c'est quand tu gagnes tes matchs avec beaucoup de buts qui fait que tu es beaucoup plus serein dans un autre match. Quand tu gagnes juste 1-0, tu te poses toujours la question si tu n'encaisses pas. Alors, ce qui n'est pas le cas quand tu enchaînes les buts et les victoires.
Merci Didier d'avoir été avec nous.
Merci à tous.
Merci Didier.
À très bientôt,
merci
Didier. À très bientôt, Didier. Et puis parlons quand même de Lille. Hein. Nouvelle défaite pour Lille. 11e match sans victoire pour les Lillois. On va écouter Christophe Galtier. Alors Lille qui est avant-dernier ce soir. Christophe Galtier, il garde la foi quand même.
Je garde la foi, c'est difficile. Intérieurement, c'est très très difficile. Mais je garde la foi, oui. Je garde la foi. Il faudra battre Metz. Vous dire que c'est agréable, non, c'est très désagréable. Vous dire que c'est difficile, c'est très difficile, c'est très dur. Mais je suis là, bien là, il faut garder le cap et y croire.
Il accuse de coup quand même, hein, Christophe Galtier.
De toute façon, Nico, il n'a pas le choix. C'est le patron du navire, il est obligé de garder la foi.
Déjà.
Exactement, il peut pas. Si le coach baisse les bras, je pense.
Ah, il les baisse à moitié. Il le dit, c'est dur.
Non. Après, oui, c'est dur. Ah ben, il dit la vérité.
Ouais, il accuse de coup.
Il dit la vérité.
Non, mais je dis pas que c'est pas bien. Je dis qu'il accuse de coup.
Il dit la vérité. Après, pour Lille, c'est inquiétant. Pour Lille, sur ce match-là, c'est pas le fait. Comme il a dit le supporter strasbourgeois, tu peux perdre. Mm-hmm. Tu peux perdre. Tu perds tout ça. Mais quand tu mets aucune agressivité, aucune combativité, rien. C'était comme il a dit le coach adjoint, la première mi-temps de Lille, c'était pathétique. Il y a eu même Benza. Comment tu veux gagner un match si tu gagnes pas tes duels? Si tu vas après, on va peut-être trouver des excuses. L'équipe est jeune, et tout ça.
Oui,
mais au moins se battre, un minimum. Il y a des boulevards, il y a 10 mètres du porteur de balle. Ouais. Tu voyais sur le match, Sarr, Bouda, il avait le ballon, il n'y a aucun à côté de lui. C'était. Donc c'est pour ça que c'est très inquiétant pour le LOSC.
On a l'impression qu'on voit cette équipe qu'ils ne se connaissent pas. Chacun joue dans son coin, chacun réagit avec du retard par rapport à l'autre. Donc aussi bien attaquer que défendre. Chacun veut faire un petit peu son numéro à son tour.
Non mais si c'était pas, c'est peut-être ça. Parce que quand je vois Galtier qui dit hier après les fameuses sorties dans la presse qu'il y a eu de la part de certains joueurs, dont Benzia d'ailleurs, t'en parlais il y a quelques instants, quand il dit, il y en a un qui accuse les uns puis les autres.
Oui,
et au final, personne n'est irréprochable là-dedans. Mais peut-être qu'ils se connaissent pas vraiment les mecs.
Quand tu recrutes un groupe,
qui a pas l'esprit d'équipe dont vous parliez.
Quand tu recrutes un groupe et un équilibre, t'essaies de prendre un petit peu des joueurs qui sont bons, qui vont bien ensemble, et t'essayes un petit peu de créer un puzzle. Voilà, de faire ton puzzle de telle façon pour que ça se passe bien. Et t'es pas sûr que ça se passe bien. Mais si tu prends de partout des championnats qui ne connaissent ni la Ligue 1, avec un entraîneur très à part qui était Bielsa, et en plus t'enchaînes avec un nouveau président, un nouveau directeur sportif, un nouveau recruteur,
et que tous les cadres, tout
et que tu balardes la colonne vertébrale, ne t'attends pas à faire
qu'on le veuille ou non, on se répète peut-être, mais il manque des tolés dans cette équipe.
Il n'y en a pas.
C'est abusé. Mais comment tu as pu...
Ils ont
déployé. Après, je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ça ne nous regarde pas, on n'est pas là. Mais comment tu peux laisser partir des cadres, des joueurs, des tolés? Il y avait des joueurs qui étaient là.
Serre-toi ça, et après tu t'as...
Déjà, quand tu vois, je pense que... Je donne juste un exemple. Enyama, c'était une référence en tant que gardien.
C'était le meilleur gardien
en championnat de France. C'était une référence. Après que, il était
un peu. Sa dernière saison, elle était un peu plus.
Je suis d'accord avec toi, il était moins performant, Nico. Mais tu as vu le match du jeune Kofi, le pauvre? Mais j'avais de la peine pour lui. Et la pression qu'il doit avoir. Il lâchait tous les ballons. Mais Enyama, c'est une référence, c'est un gardien d'expérience. Même s'il est moins performant. Mais Enyama,
il rassure pour
un maintien, pour...
Tiens, on va prendre le pouls auprès des supporters du LOSC. Il y a Xavier qui nous a appelé au 32-16. Salut Xavier.
Salut After. Je vais la faire courte ce soir parce que je veux pas plomber l'ambiance, mais...
À ce moment-là?
Mais 30, très rapidement. Moi, ça fait 35 ans que je suis supporter du LOSC. Ça a commencé avec Georges Hélens dans le début des années 80. On a connu des équipes moyennes, on a connu la D2, on a connu des joueurs moyens, on a tout connu à Lille, mais une équipe de Charlot pareil, on n'a pas connu. Parce que là, on attaque vraiment la falaise. Il faut arrêter de leur trouver des excuses. C'est scandaleux, c'est se moquer du monde, c'est se moquer du club, c'est se moquer des valeurs. Là, c'est pas possible. Il faut arrêter de penser que demain ça va aller mieux. Ça fait les 10 derniers matchs. On a rencontré quasiment toutes les équipes de fin de classement. On n'a pas été à la hauteur. On fait n'importe quoi. Il faut arrêter Galtier. De toute manière, il est tenu par le club parce qu'il ne peut pas partir. Mais c'est pas possible. Les valeurs... Galtier qui est quand même un entraîneur de devoir. Mais il devient fou, quoi. Je suis certain qu'il devient fou dans sa tête. On devient tous fous à Lille. C'est pas possible. Parce que je vous dis, moi j'ai connu Lille en D2... Se battre chaque année pour pas descendre, ça a été notre pain quotidien pendant
les
années.
Les dogs lillois.
Merci Xavier en tout cas de nous avoir appelé. Il faut absolument qu'on file. En tout cas, on remercie Xavier. Bon courage. Bon courage Xavier. Voilà, il est pris au cœur.
Bon courage.
On se retrouve dans quelques instants. On fera un petit tour d'Europe, bien entendu. On reviendra notamment sur la victoire du Barça en finale de Coupe du Roi, 5-0 face à Séville. À tout de suite.
RMC, le Super Football Show, l'After Foot, Nicolas Villas.
Et Ali Benarvia, et toi Filou Maolida, et Simone Rovera nous a rejoint parce qu'on va faire un petit tour d'Europe dans maintenant d'ailleurs. Ça va Simone? Ciao!
Ciao, bonsoir!
Comment ça va?
Ça va?
Ouais.
Très bien. Très joli.
T'aimes bien?
Très bien, ouais.
Je sais pas, j'ai une de violet sur Toulouse. Pourquoi pas, ouais, victoire, première victoire de Toulouse depuis janvier, je crois, c'est ça, on disait tout à l'heure.
Exactement. Moi, je pensais à la
Fédération. Parsemin, tout ça, là. Je préfère Toulouse, je pense, ouais.
Avec du vin, alors.
Ah ouais, parsemin, ouais. Au milieu des marais, là, avec les moustiques et tout.
Plus fausse que Istra, les moustiques.
Les quoi?
C'est plus fausse sur mer, les moustiques.
Ouais, mais le stade, il est à fausse, je crois, le parsemin.
Ouais, c'est ça.
C'est construit à côté d'un marais, là. Il y a des moustiques.
Ouais, Istra,
c'était catastrophique.
T'as la fois, c'est pas pareil.
Ce stade qui avait volé un reportage, dans combien ça coûte, avec Christophe Pernaud. Vous avez dit que c'était une arnaque totale, d'ailleurs. Enfin, bref. Ouais, on va filer en Italie avec toi, mon Simone. Fais-nous voyager. 34e journée de Serie A. Victoire de la Roma 3-0 à Spal. Sassuolo, qui a battu la Fiorentina 1-0. Et Benevento, qui allait gagner à Milan 1-0. Et puis après, tu nous parleras du Juve-Napoli de demain, puisque c'est quand même ça, la belle affiche. Tu retiens quoi d'abord de ce soir, là,
des Gattuso, il est content ce soir.
Ce soir, on a vu un résultat extraordinaire, incroyable. J'étais en train de mélanger les deux mots, extroyable.
Extroyable, ça passe.
Ah, c'est bon. Voilà, c'est bien, ça.
Vraiment quelque chose de tellement inattendu, mais... On peut imaginer les scénarios, non? Milan qui attaque, Benevento qui se défend et marque un but. Non, c'est Benevento qui fait un match extraordinaire, mais balle au pied, ballon par terre,
ballon.
Non, on peut parler d'autre chose, parler de Dybala. Parce qu'il rentre en deuxième mi-temps, il prend un carton jaune, 5 minutes après, un autre carton jaune.
Oh non.
Il fait terminer
ça.
Tout ce qu'il a fait, on s'attendait pas à ça.
Non, mais lui, c'est rare.
Il était remplaçant.
C'est quel stade qu'il a, le mec.
L'idée des Zerbi, qui, dans les prochaines saisons, on va voir des Zerbi sur les bancs.
Deux Zerbi.
L'entraîneur de Benevento, tu connais pas.
Il est à Bastia.
Un jour, tu vas les connaître. C'était de jouer le match et faire tenir les ballons avec l'attaquant aussi qui aide les milieux de terrain. Il y a battu un extraordinaire finalisateur. mais dans cette gestion du match, il aurait été plus utile pour garder les résultats à la fin du match. Et malheureusement, il n'a pas aidé. Mais Benevento a fait l'exploit de la saison.
Mais Milan, la saison elle est terminée. C'est-à-dire là, au mieux, ils vont faire les barrages pour la Ligue Europa.
Mais non, mais il y a un rendez-vous pour Milan. 9 mai, finale des Coupes d'Italie.
Et donc là, tu vas direct.
Okay. Si Suso était remplaçant ce soir, qui est le meilleur joueur de cette saison pour Milan, il n'était pas au top. Gattuso a décidé de ménager un peu. Mais sans Suso, il manque un peu de lumière, c'est Milan.
Alors la Roma qui gagne 3-0 à Spal. Alors en attendant la Lazio qui joue demain face à la Samp, ils ont 3 points d'avance sur les Lazialistes, c'est comme ça qu'on dit ?
Laziali.
Les Lazialistes. Lazialistes. Ils sont comment les Romains là, 3 jours, 2 jours maintenant même, de la demi-finale de Ligue des Champions contre les Anglais.
Ils m'ont fait une très belle impression parce que déjà il y avait une Roma, je dis pas B, mais avec beaucoup de remplaçants. Sur le banc, il y avait Florenzi, De Rossi, Zeko, Kolarov n'était même pas dans les voyages. Çelik Sunder aussi, les petites Turcs qui fait des très belles choses, étaient remplaçants. Perotti aussi, donc beaucoup de remplaçants. Et la Roma a dominé, il a géré tranquillement le match. Il a eu plein d'occasions. Une très bonne El Shaarawy qui n'a pas marqué. Mais quand même, la Roma s'est imposée 3-0. Super Nainggolan qui marque aussi un but avec une belle frappe de l'extérieur. Je trouve un Roma en jambes, et après cette victoire face au Barça, mentalement plus fort. C'est-à-dire, elle sait aujourd'hui qu'elle est plus forte de beaucoup d'autres équipes, et même un match comme ça, qu'il y a quelques semaines, il y a quelques mois, quelques années, aurait galéré, elle a géré vraiment comme aurait fait la Juve.
Vous y croyez, la Roma face à Liverpool, vous ?
Comment il s'appelle ce Turc-là ? Dis-moi son nom.
Chez nous,
le jeune, là. Ah.
Comment il est, là, un petit peu, celui-là ? Je le connais pas trop.
C'est un petit gaucher, très rapide. Qui l'entraîne, qui ressemble beaucoup au jeune Vincenzo Montella, pour te dire, c'est un profil comme ça. Mais il peut jouer un peu plus milieu de terrain aussi, et un peu plus excentré.
Et sur ce match de la Roma, en plus en jouant contre Spal, c'est une équipe, il y a pas beaucoup qui vont gagner à Spal. Hein. J'ai vu Spal, il faut beaucoup de matchs nuls, c'est pas facile d'aller gagner à Spal. Et les 3-0 avec l'équipe, on va dire B, c'est un bon résultat avant les demi-finales. Après, Liverpool, je pense que pour répondre à ta question, Nico.
Merci toi, Philo.
Je les vois pas passer Liverpool. Je pense que voilà, avec leur trio d'attaque, Firmino, Salah, Mané, va falloir costaud. Mais après, la Roma a démontré que contre Barcelone, était capable de soulever des montagnes. Mais pour moi, les favoris sont Liverpool.
Ali?
Ouais, pareil. Je dirais pas l'expérience de la Roma, mais je pense que Liverpool, je les ai vus. C'est quand même costaud.
On y croit en Italie ou pas, à la qualif de la Roma face à Liverpool?
Oui.
Liverpool qui a fait 2-2 face à West Brom, c'est après on sera, on les reviendra tout à l'heure avec Philippe Auclair.
Oui, déjà aujourd'hui, il y a beaucoup d'ampleur aussi, c'est de partout. La Sky qui transmettait les matchs de Liverpool et de la Roma. À la fin du match, on fait beaucoup de comparaisons. Ah, Liverpool peut faire un petit faux pas. Quand tu vois comment la Roma a renversé Barcelone au retour, et tu vois que les retours de cette demi-finale est encore à domicile, on pense que c'est possible. Il y a eu des attentes, ils ont vendu cette semaine les billets pour le match retour. Il y a des gens qui ont fait plus d'un jour, 24 heures d'attente pour ces billets. Il y a une espoir à Roma qui est immense. Et je dis pas seulement espoir, c'est vraiment la conscience de pouvoir faire quelque chose. Parce que cette Roma a est solide comme j'avais jamais vu dans les dernières saisons.
Demain, il y a le gros choc. Juve-Napoli, on peut dire, c'est la dernière chance s'il en reste une pour le Napoli. Il y a 4 points d'écart, 4 points d'avance pour la Juve au coup d'envoi de ce match. Toi, de toute façon, depuis le début de saison, même quand l'Inter était devant et tout, tu disais la Juve serait encore championne cette année.
Oui, parce que c'est l'équipe la plus forte et
il y a un coup à jouer là pour le Napoli quand même. Bah, oui, si, tu penses que même s'il gagne, c'est mort.
Non,
c'est la dernière chance.
Déjà, s'il gagne.
Déjà, attends.
S'il gagne. Et il casse cette, comment peut dire, malédiction, cette histoire cruelle.
Complexe.
Voilà, une complexe d'infériorité. 7 matchs au Juventus Stadium, 0 victoire.
Ah oui.
7 défaites entre Coupe d'Italie et Championnat, 17 buts encaissés, 3 marqués. C'est vraiment, Naples arrive au Juventus Stadium, Allianz Stadium aujourd'hui, et s'écroule, c'est fini. Il faut parler de ce qui se passait mercredi, match pendant la semaine, et à un certain moment du match, la Juve avait 9 points d'avance. Parce que la Juve gagnait à Crotone, Naples perdait à domicile face à l'Udinese, et les joueurs savent qu'est-ce qui est en train de passer sur les autres terrains. Et tu passes de 9 points à 4 points,
c'est pas pareil.
Et là ça change, quand surtout tu as le match derrière. Naples arrive avec un enthousiasme énorme, la Juve avec sa force qui est habituelle, il y a quelques doutes des compositions de l'un côté et de l'autre, Allegri pourrait faire mettre, encore une fois, Dybala sur les bancs. Attention.
C'est pas fini encore cette histoire là.
Il faut voir. Il y a un choix à faire entre lui, Mandzukic et Cuadrado. Et on parle aussi d'un 4-2-3-1 avec Matuidi au latéral haut à gauche. Un peu comme il l'avait fait au match aller. Par contre, gros doute chez Napoli. Mertens, qui est si mal à marquer, ou Milik. Donc, déjà, change une chose fondamentale.
Il est bien Milik, là, depuis qu'il est revenu de blessure.
Alors, Milik a été décisif sur certains matchs. Il a été décisif face à l'Udinese. Il a fait un bon rentré. Sassuolo, qui est beau face au Milan. Il pouvait être l'homme encore décisif. Il y a eu l'arrêt extraordinaire de Donnarumma. Il est très bien, Milik. Mais le problème, c'est qu'avec Mertens, tu fais ton jeu.
Ouais.
Avec Milik, c'est un autre type de joueur. Donc, si tu sors Mertens après 6 matchs à marquer sur le match plus important, mais pas de la saison, mais des dernières années des Naples, c'est une manque de confiance pour ces joueurs qui a fait des choses extraordinaires. L'autre doute, c'est Hamsik ou Zielinski, mais je crois que le capitaine ne peut pas être titulaire.
Merci Simolet.
Avec plaisir.
Tu restes avec nous?
Bien sûr.
Il y a Philippe Auclair et Fred Armel.
Je veux parler avec
Philippe.
Avec Philippe pour savoir si
Liverpool
va trop bien.
Ah oui, justement.
Et aussi les 5-0 de Montella, ça m'a fait
tenter. Oui, bien sûr, on vous attend. Écoutez, l'after se poursuit tout de suite avec donc Simone Rovera, toi Philo Maolida, Ali Benarbia et Philippe Auclair et Fred Armel dans quelques instants.
RMC, le super football show, l'after foot, Nicolas Villas.
Ali Benarbia, toi Philo Maolida et Maolida. Et Simone Rovera, bien entendu. Oui. Et vous, au 32-16, hashtag RMC Live. Fais-le un peu, Alice, tu veux. Hashtag RMC Live. Toi, Philo. Ça, vas-y. Simone Rovera. Voilà.
T'as vu comment il t'a regardé.
Et va savoir si Philippe Auclair ne le fait pas également derrière sa console. Salut, Philippe.
Bonsoir, Nico. Je m'excuse tout de suite. Ma voix n'est pas vraiment
ça va pas mieux, toi, dis donc.
Non, pas vraiment. Mais c'est... Qu'est-ce que tu veux? C'est toutes les larmes que j'ai versées sur ce qui s'est passé à Arsenal hier et tout ça.
Je comprends le départ d'Arsène. Philippe.
On m'a dit que tu vas le remplacer, Philippe.
Cela dit, pour toi, c'est la fin d'une aventure aussi.
Si jamais je peux avoir le 10e de son salaire, je le prends tout de suite.
Tout de suite, t'es vraiment avec Vénal. C'est incroyable.
Oui, Vénal, absolument. Le code Vénal.
Cela dit, ça doit te marquer toi aussi, parce que enfin, vous connaissez depuis tellement d'années avec Arsène Wenger.
Oui, ça me marque beaucoup. Je t'avouerai que je serai à Arsenal West Ham demain et c'est moi qui vais faire la flash interview avec avec Arsène après le match et que je sais pas très bien comment je vais la vivre.
C'est vrai à ce point-là?
Ah ben complètement.
Et une petite larme à l'œil, je crois.
Mais je crois beaucoup d'émotions et c'est normal. C'est-à-dire c'est dire au revoir à quelqu'un que j'admire, que je respecte, avec lequel j'ai eu beaucoup de bisbilles au fil des ans. On n'a pas toujours été
d'accord.
Mais ça fait quelque chose quand tu sais que la personne ne sera plus là dans quelques semaines. Ben voilà, ça change tout.
Arsène Wenger qui disait il y a quelque temps, c'est que beaucoup de supporters ont réclamé son départ avec la fameuse campagne entre guillemets Wenger out. Il disait, je sais que les supporters n'aiment pas pour certains le manager, mais ça n'attaque il s'adresse pas à l'homme qui est Arsène Wenger. Je pense que c'est un peu ça finalement aussi avec
absolument.
Toi.
Absolument,
Philippe.
Ouais. Je crois que de toute façon, ce soit quoi on va insister maintenant au cours des derniers matchs qui restent à jouer. Donc c'est West Ham demain. Le match contre Atletico qui est hyper important bien évidemment et le match contre Burnley, c'est qu'on va assister aux véritables adieux. C'est curieux, je pense que Arsène Wenger d'une certaine manière va être comme Charles Quint, quelqu'un qui va assister à ses propres funérailles. Ça paraît bizarre de dire ça, hein.
Ouais.
Mais c'est un petit peu ce qui va se passer, en ce sens que bon, il va prendre un autre rôle dans le football. On est tous certains, je pense que vous serez d'accord avec moi, que Arsène Wenger a encore beaucoup à donner au football, que ce soit en directeur sportif, comme sélectionneur, comme entraîneur, peu importe. Mais là, on est dans la toute dernière ligne droite, on voit le fil d'arrivée, on sait qu'il y a quelque chose qui va se casser, et du coup, bon, émotionnellement, c'est très difficile à vivre pour tout le monde. Même si, comme c'est mon cas, je pense qu'il aurait dû peut-être partir plus tôt. Et je pense qu'on est peut-être également tous d'accord là-dessus. Mmh. Ça n'empêche que on a maintenant ce sentiment très bizarre, très mêlé de tristesse, de regret, de chagrin, mais aussi d'un autre côté d'acceptation de l'inéluctable. On était arrivé à un point où ça ne pouvait plus continuer. Bon, maintenant il faut le vivre émotionnellement. Et bon, le football c'est l'émotion, donc là de ce côté-là, j'ai aucun problème. Ça va être très beau. Je pense que ce qu'on va vivre va être très très beau, et j'espère également que ça va motiver les Gunners, les joueurs des Gunners, non seulement contre West Ham, mais surtout contre l'Atlético de Madrid jeudi prochain, qui devrait être un match absolument mais inouï.
Et le match entre Arsenal et West Ham sera à suivre demain sur SFR Sport, bien entendu.
Absolument, on y sera.
Autre match que vous avez peut-être suivi d'ailleurs sur SFR Sport cet après-midi, le match entre West Brom et Liverpool. Alors c'était le match pour Liverpool avant la rencontre de mardi face à la Roma en Ligue Europa. les Reds qui menaient 2-0 et il y a eu 2-2 face à la Lanterne Rouge West Brom. Alors on va pas parler de West Brom, même si ce qu'ils font là depuis 15 jours c'est hallucinant.
Ils ont tapé United. Avec le nouvel entraîneur Darren Moore, absolument, ouais. C'est remarquable de voir comme une équipe a été libérée depuis qu'ils ont plus l'imposteur là, Alan Pardew.
Ah
oui, mon pote, oui. Alors celui-là, ça je peux te garantir, si je peux, je ne loupe jamais une occasion, je ne l'ai jamais loupé, je ne la louperai jamais, mais je pense que j'aurai plus d'occasion à louper. C'est possible.
Non, non, je déconne en disant ça.
Mais... oui, un petit peu. Mais disons que ce qui se passe à West Brom est extraordinaire. Mais bon, tu vois une équipe de Liverpool qui essaie de gérer sa fin de saison, qui a bien évidemment un énorme objectif en vue, qui est de nous refaire Istanbul, grosso modo. On les attendait pas nécessairement. Moi, je les attendais un petit peu, beaucoup même, au début de saison, dans cette compétition. Jürgen Klopp avait fait tourner, même en faisant tourner, et faisant pas mal tourner, ils avaient le match en main, mais bon, que veux-tu? Il y a pas grand-chose à lire là-dedans, sinon le fait que tu as des joueurs qui pensent...
Ah, faut parler de ça là quand même, Philippe. Il en a 31 buts cette saison. Ouais. Il égale le record sur une saison en Première Ligue de Luis Suarez, Cristiano Ronaldo et Alan Shearer.
C'est énorme.
Dans la Première Ligue à 20 clubs, hein, parce que Shearer avait mis plus.
Et je crois que tu vois, même Nico, je pense que quand on dit ça, on minimise son record.
On se rend pas compte.
Ouais. Il est tellement qu'il faut qu'on dise, ouais, parce que oublions, tu veux, mais d'ordinaire quand on dit les records de Première Ligue, moi j'en ai rien à cirer. Ouais. Par contre, c'est un championnat à 20 équipes. Là par contre, ça c'est de arithmétique, avant il y en avait 22, maintenant c'est 20. Il est maintenant au top avec de très très grands joueurs. Il a encore quelques matchs pour être au top du top du top. C'est tout simplement extraordinaire. La constance, la régularité, c'est à la limite à te demander d'ailleurs par moment si Liverpool maintenant va pas finir sa saison en championnat pour
le record,
donner le Pichichi, le prix du Pichichi à Mo Salah, en espérant que ça ne leur ça joue pas tellement contre eux, parce que je sais pas si tu as remarqué ou si vous avez remarqué les gars, mais ce classement de Première Ligue, on s'imaginait que tout était fait.
Voilà, la deuxième place c'est chaud avec United encore,
mais même
Arsenal, hein.
Mais même la cinquième et la quatrième place, avec le résultat de Chelsea, c'est pas si évident que ça. Attention les gars, et je pense à Tottenham quand je dis ça, beaucoup plus que Liverpool.
Mais c'est même Arsenal, ils sont pas à l'abri face à Burnley avec deux points d'écart.
Ils sont pas à l'abri, mais ça ne serait pas une catastrophe. Ouais. À la limite, je te dirais, même si jamais Arsenal ne participe même pas à l'Europa League l'année prochaine, ça pourrait même être un avantage pour le successeur d'Arsène Wenger,
ouais, de pouvoir
se concentrer entièrement sur le championnat.
Toi, Philou.
Et sur Salah, c'est doublement énorme, parce que Salah n'est pas un avant-centre. Salah, c'était le joueur du côté, 31 buts,
oui.
En étant un joueur sur le côté. Ouais. Quand on voit Harry Kane qui est juste derrière lui, c'est un avant-centre, pur avant-centre. Des joueurs comme Lewandowski, Harry Kane, Higuain, c'est des avant-centres. Salah, c'est un joueur de côté. Donc, mettre autant de buts, c'est énorme. Félicitations à Salah, et j'espère qu'il va mettre encore et qu'il terminera meilleur buteur de la Première Ligue.
Tiens Philippe, un petit mot également sur la demi-finale de la Cup entre Manchester United et Tottenham.
Peu, parce que c'était un match...
Victoire 2-1 des Red Devils.
Oui, qu'on voyait venir, on en avait parlé un petit peu avant, et tu sentais que cette équipe de Tottenham, elle était, en danger. Elle jouait à domicile, mais ça ne veut absolument rien dire, et c'est une chose que j'ai fait remarquer à tous mes amis. J'aurais dit, vous savez, les équipes qui reçoivent à domicile dans une demi-finale à élimination directe ou une finale, regardez leurs résultats, c'est généralement catastrophique. J'ai dit bien, catastrophique. Le Sporting, tu te souviens, contre le CSKA Moscou, 2005, c'était chez eux, ils ont perdu.
Ouais.
Tu te souviens, la Roma contre Liverpool, au Stadio Olimpico, ils ont perdu. Le Bayern, contre Chelsea à l'Allianz Arena, ils ont perdu. Et aujourd'hui, Tottenham, dans son nouveau stade de Wembley, qui sera son ancien stade de Wembley d'ici 6 mois, eh ben ils ont perdu, mais ils ont perdu à l'air régulier. Je pense pas que tu puisses avoir quoi que ce soit à dire contre la légitimité sportive du succès de Manchester United, qui a pourtant dû endurer 20 premières minutes extrêmement compliquées avec un très très haut pressing, un super Dele Alli, une équipe de Tottenham qui était franchement totalement remontée, et malgré tout ils ont trouvé les ressources. Et ce qu'a fourni comme jeu cette équipe de Manchester United ensuite. Ce que José Mourinho a proposé également face à Mauricio Pochettino, c'était franchement très très bien. Et on doit signaler, je suis pas un fan, je suis pas non plus un hater comme on dit maintenant. Je constate simplement qu'on a vu un Paul Pogba dans un 4-3-3 qui, après un début de match très compliqué parce qu'il est à la faute sur le premier but de Tottenham, personne n'en doute, a ensuite fourni une prestation de très très haut niveau. Et ça c'est bon signe.
Il a
ça,
été passeur bon décisif d'ailleurs.
Hein, ouais, parce qu'il non mais franchement, ce qu'il fait pendant tout le match, mis à part les 20 premières minutes, sont vraiment pas bonnes.
Il a eu du mal à rentrer dans le match en fait. Après,
mais quand il est rentré,
Il a compris qu'il ne pouvait plus avoir le volume qu'il avait dans ses débuts avec la Juve. Donc du coup, il essaye de se mettre entre les lignes et d'être décisif dans ce qu'il fait. Surtout que faire beaucoup de choses qui ne servent pas. Et là, par contre, quand il est décisif, c'est vrai qu'il est impressionnant.
Alors, Manchester United.
Le centre pour la tête d'Alexis Sanchez. Ah,
c'est, ouais, il est magnifique,
c'est un régal.
On l'a vu sur BFM.
Et comme il a dit Philippe, le fait aussi de jouer dans un 4-3-3, je pense que ça facilite beaucoup Pogba, qui est pour moi beaucoup plus performant que quand il joue dans un 4-4-2 à 2-6.
Simone, on continue d'en parler de Pogba ou pas en Italie?
Énormément, surtout depuis quelques semaines, parce que, apparemment, surtout avec les mercato, apparemment, il y a l'intérêt de la Juve pour la faire revenir. Donc,
oui. Il est loto, les mecs, ou?
les lotos s'appellent Mino Raiola pour eux, donc, parlerait de ça.
Après, comme son d'achat. Et Jérôme Thomas me dit après, il retournera à Manchester. Ça y était déjà, effectivement, Jérôme, bien vu. Et alors, Manchester United qui jouera en finale de la Cup, soit face à Chelsea, soit face à Southampton. Match demain. Alors, Southampton qui a vraiment une saison bizarre. Hein. Ils cartonnent en coupe, les mecs, mais alors, en championnat, ils sont à la rue.
Oui, à la rue, ils sont même dans le caniveau. Hein. Oui. En championnat, je pense que tu peux dire qu'ils sont. Ça y est, c'est terminé, ils sont en train de voguer.
Ils ont 4 points de retard sur Swansea. Voilà.
Oui, mais
ils ont un match en plus.
Oui, et non, mais ils sont finis. Par contre, en cup, en effet, ils peuvent faire des choses comme ils avaient fait l'année dernière. Ouais. Hein, souvenez-vous, ils arrivent en finale de la Coupe de la Ligue avec Claude Puel, mais bon, à une époque où ça allait beaucoup mieux en championnat puisqu'ils avaient terminé 8e. Mark Hughes, le nouveau manager, dont je pense pas nécessairement que des très bonnes choses, a malgré tout un bilan plutôt positif en cup. Tu te poses également la question, cette équipe de Chelsea, on ne sait jamais très bien à quoi s'attendre, même dans un même match. Regarde justement le match contre Southampton en championnat où ils sont menés 2-0 quand ils étaient sur le terrain de Southampton, se reprennent ensuite parce que Hughes fait des erreurs de coaching ou plutôt n'agit absolument pas, alors que Kanté a les moyens, quant à lui, fait les bons choix, fait les bons remplacements et l'emporte finalement 3-2 grâce à Olivier Giroud en particulier. Mais c'est un match beaucoup plus incertain qu'il y paraît. Il n'y a pas si longtemps que cela, il y a une équipe qui s'appelle Wigan, dont l'entraîneur était Roberto Martinez, aujourd'hui sélectionneur des Diables Rouges belges, qui avait sombré en championnat, mais qui avait malgré tout remporté la finale de la Cup face à Manchester City. Tout est possible. C'est une épreuve complètement différente. J'imagine également que les joueurs, et là je me tourne plutôt vers vous, Ali, et toi, j'allais dire Thio, excusez-moi, je me tourne plutôt vers vous, c'est que vous avez une compétition dans laquelle vous n'avez plus aucune chance. Vous en avez une autre dans laquelle vous avez la possibilité d'inscrire une grande page dans votre carrière et dans l'histoire de votre club. Il y a une mentalité complètement différente.
Oui, complètement.
Et les mecs seront remontés, mais comme des pendules demain, les joueurs de Southampton. T'imagines sortir de Chelsea en demi-finale?
Non, et c'est pas ça, surtout, comme tu dis, quand c'est toi qui n'as rien à perdre et que tu peux avoir un titre. Si une équipe qui a la pression, ça sera les autres et non pas toi.
Messieurs, merci Philippe, va te soigner mon filou.
Pas
soigner
toi. Non, il n'y a pas de problème.
Il y a Fred qui est là.
Écoute, voilà, moi j'écoute, je reste là, je suis.
Eh ben, reste avec nous alors.
Je suis relax, j'écoute. Tu connais. Je veux savoir ce qui s'est passé pour Valence.
Eh ouais, on va parler notamment surtout de la finale de la Coupe du Roi. Fred Hermel qui est avec nous. T'es là, Fredo?
Hola, chicos.
Hola, Fredo.
En direct du
Wanda.
Béton, là, du Wanda Metropolitano. Il y avait une belle ambiance ce soir, 60 000 personnes. Alors, on avait d'un côté les Sévillans qui n'ont gagné qu'une seule chose. C'est que leur la, puisque vous savez que l'hymne espagnol n'a plus de paroles, ouais. Donc ils font la, était plus fort que les succès des Catalans, parce que pour le reste, ils ont tout gagné, les Barcelonais, 5-0, victoire absolue du FC Barcelone qui a bouffé Séville de la première à la dernière minute de cette finale de la Coupe du Roi. Et donc on se dirige vers un doublé, puisque le Barça sera sacré champion dans les prochaines semaines, un doublé du FC Barcelone après une victoire. Mais c'était même pas, alors je vais pas dire que j'ai pas passé un bon moment, parce qu'on passe toujours un bon moment dans un beau stade, dans une finale de Coupe du Roi, mais il y avait pas photo, hein. Séville, il y a qu'un joueur qui a tenu son rang à Séville, c'est un Français, c'est Steven Nzondi.
Comme d'habitude.
Il a été comment, Umtiti, Fredo?
Non, il a fait le boulot. D'ailleurs qu'avec Piqué, ils avaient resserré les boulons, là c'était très sérieux. Mais ils n'ont pas eu un boulot énorme à faire. Hein. Meignéder a même pas joué une seule seconde. Muriel, vous savez ce qu'on pense tous de cet attaquant qu'adore Vicenzo Montella, l'entraîneur du Séville FC. Bon, ça, mais de toute façon, vous savez, quand à la 50e minute, vous avez le public, enfin la moitié du stade, celle pro-catalane, qui fait des olé olé parce que les mecs du Barça font des rondos, bon, bah, vous imaginez bien la domination, quoi. Mais c'est incroyable de voir... une telle domination entre deux grosses équipes, c'est quand même deux équipes qui sont arrivées en quart de finale avec des champions, mais il y a quand même de quoi donner des regrets aux Catalans après ce qui s'est passé à Rome, quoi, parce que le Messi de ce soir, bah, Messi là, il a tout fait ce soir, hein, mais et voilà, s'il avait été à Rome, ben, on parlerait pas d'un échec cuisant en Ligue des Champions et on aurait un Barça en doublé et en train de jouer les demi-finales, ayant réalisé le doublé, en train de disputer les demi-finales avec des champions.
Et notre deuxième Français, Dembélé, il a joué ou pas? Il est rentré?
Ouais, il est rentré en toute fin de rencontre. Il a pas eu grand chose à faire. Hein. Mais je vous dis, c'était. Mais moi, le plus beau moment, parce que voilà.
Iniesta.
Il y a un joueur extraordinaire qui s'en va, qui s'appelle Andrés Iniesta. Espoir. Son dernier match, son dernier grand match. Avec le Barça, bien sûr, comme capitaine. Dans les prochains jours, il va annoncer qu'il part en Chine. Et ce soir, il a marqué un but sublime, après un 1-2 avec Messi. Et quand il est sorti à la 86e minute, malgré la rivalité qu'il y avait entre deux équipes, la rivalité sportive, malgré la rivalité politique entre des Sévillans très, 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 de grands défenseurs de l'unité d'Espagne et une partie du public catalan séparatiste, eh ben tout le monde s'est levé, tout le monde a applaudi Andrés Iniesta. Voilà, il y a des joueurs comme ça qui sont au-dessus de tout. Et Andrés Iniesta est une légende du football mondial et avant tout espagnol qui ce soir a permis qu'il y ait de l'union dans une soirée finalement beaucoup moins exacerbée qu'on pouvait l'imaginer. Malgré bien entendu les sifflets contre Lille, voilà. Mais moi, j'étais ravi de voir une dernière fois Andrés Iniesta. Quoi, ça va faire bizarre, hein, de voir un Barça sans Iniesta. Hein,
et bah, écoute, toi, tu perds Iniesta et Philippe, il perd Arsène Wenger. Voilà,
c'est deux personnes. Je pense que l'on peut dire Fred, c'est deux personnes qui font l'unanimité. C'est rare des gens comme ça. Et Iniesta, je veux dire, on est tous. On aimerait bien qu'il puisse prendre une machine à remonter le temps et avoir 10 ans de moins et qu'on revoie ce joueur sublime.
Philippe Fred, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est fini déjà, c'est la fin de cette
émission.
Merci les gars, bonne soirée.
Si tu n'aimes pas Iniesta, c'est que tu n'aimes pas le football. Hein.
Oui, absolument. On est tous d'accord, je crois.
On est d'accord.
Fred, t'avais déjà perdu Xavi, là il perd Iniesta, ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait beaucoup.
Ah non, mais Iniesta, il est sympa, parce que Xavi n'est pas sympa. Il est sympa. Non, mais ça compte.
Merci Fredo, bonne soirée. Bonne soirée Philippe, soigne-toi bien mon filou.
Allez, ciao les gars.
Bonne soirée, voilà, du miel avec du lait chaud, tu le sais. Toi Philou, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait un plaisir de partager ces afters avec toi.
C'est gentil.
Voilà. Merci.
Plaisir partagé.
La communauté de l'after vous remercie, monsieur Mahouda.
Ah, je crois que la communauté de Mayotte.
Oui, aussi, bien entendu. Aussi.
Ah oui, un petit coucou à Mayotte. Voilà. Profite.
Bien sûr. Qui regarde la
Mayotte.
Parce qu'il regarde la
Mayotte. Exactement, il y a beaucoup de Maoris qui sont.
Merci à Ali Benarvia.
Avec plaisir.
Grazie mille, c'est moi la Javela. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui nous ont préparé cet after. Merci, bonne soirée, bisous et à demain.
C'était l'After Food sur RMC avec l'école Sikaflex. Sikaflex, 50 ans de réflexe.
RMC, le super football show, l'After Food.